Bonjour à vous, cher Emmanuel, et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur les chemins du vendredi qui vous emmène chaque semaine à la rencontre de ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. La philosophie est-elle une vocation? Comment viennent les idées? Comment se fabrique un concept? Et quel rôle le philosophe doit-il jouer dans la cité? Voici aujourd'hui le portrait en acte et par elle-même de la philosophe Barbara Cassin. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bienvenue dans les chemins de la philosophie. Je vous ai défini comme philosophe. Comment vous définissez-vous?
Comme ça aussi, mais j'ajoute philologue, c'est-à-dire que je m'occupe des textes. J'aime le langage et la manière dont les choses sont écrites.
Et c'est deux manières différentes de s'occuper des textes, la philologie et la philosophie?
C'est deux manières complémentaires, en tout cas pour moi. Ça a toujours été comme ça.
Vous arrivez à définir la spécificité de chaque approche?
Je pense que la philosophie se pose d'immenses questions. Et moi, c'est comme ça que je l'ai rencontré, si j'ose dire. C'est-à-dire que en classe de philo, tout d'un coup, j'ai vu qu'il était normal, quelque part, d'avoir des gens qui se demandaient si Dieu existe, si la liberté veut dire ci ou ça, qu'est-ce que c'est que le bien ou le mal. Bon, j'ai trouvé que c'était tellement extraordinaire qu'on ose faire de ça un métier, que j'ai voulu faire ça. Donc, c'est ces grandes questions qui m'ont fascinée. Alors que la philologie, c'est quelque chose que j'ai peut-être toujours pratiqué, mais en tout cas, appris sur le tard, comme art, comme technique. Appris après avoir, disons, compris ce que c'était que la philosophie. Je l'ai fait lorsque j'ai voulu regarder de plus près ce que c'était qu'une manière d'écrire pour un philosophe, qu'une manière de parler, que comment ça se passait une phrase, comment ça commence, Aristote, la métaphysique d'Aristote, tous les hommes désirent naturellement savoir, se dire quoi, c'est quoi ça. Et donc c'est en regardant ça de près que j'ai mesuré d'une part la différence des langues et que j'ai vu que c'était du grec et que c'était pas du français. Bon. Et que, naturellement, c'était un tout petit peu autre chose, et savoir, c'était peut-être un petit peu autre chose aussi. Bon. Et ça, j'ai trouvé ça tellement adorable, que ça m'a engagée à travailler dans ce sens.
Comment définissez-vous le métier du philologue?
Je pense que c'est quelqu'un qui... Alors, j'adore la remarque de Nietzsche qui dit que être philologue, c'est ramper dans la métrique grecque avec l'acribie d'une limace myope.
Lui se définit comme philologue aussi,
oui,
d'ailleurs. Hein.
Oui, mais son trop de philologie, c'est ça. Et quand on est philologue, on est toujours trop philologue. C'est-à-dire que il y a pas de limite. C'est pas de la volonté de puissance, ça. C'est de la volonté d'aller jusqu'au bout du détail, jusqu'au bout de la manière dont c'est fait, dont c'est dit. Et donc, je me suis mise à être philologue, et je définirais la philologie comme quelque chose qui s'occupe des textes dans leur transmission. Et depuis la manière dont ils sont écrits jusqu'à la manière dont ils sont traduits. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas nécessairement quand on est philosophe.
Et être philosophe, est-ce un métier ?
Ben, il se trouve que j'ai jamais su en faire vraiment un métier pendant longtemps, puisque... Pour en faire un métier, il faut l'enseigner. Ou du moins, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Et j'ai jamais réussi facilement à l'enseigner, au sens où je n'ai jamais passé les concours ou qui me permettaient de l'enseigner avec aisance. Donc, il a fallu que j'attende un certain temps avant de pouvoir devenir chercheur au CNRS. Et j'aurais bien aimé être prof de philo, tout simplement, mais les conditions étaient vraiment très difficiles.
Et les concours, vous voulez dire d'entrée, enfin d'agrégation,
oui,
de CAPES?
Moi, j'ai eu le CAPES du premier coup, j'ai jamais eu la GREG. Mais le CAPES m'obligeait, alors que j'avais déjà un enfant, à aller enseigner 6 jours sur 7 à la frontière belge, alors que j'avais un enfant qui habitait avec son père à Paris. Donc, c'était juste infaisable. Et cette condition, c'est dommage parce que j'adore enseigner la philosophie. Chaque fois que je l'ai enseignée, c'était un plaisir fou. Je l'ai enseignée vraiment un an, au moment du stage de CAPES. Et j'ai adoré ça. Et non seulement j'ai adoré ça, mais je crois que les élèves adoraient ça aussi. Donc j'ai été très heureuse de faire ça. Et j'ai regretté de ne pas continuer.
On va passer 50 minutes ensemble pour comprendre votre pratique de la philosophie en remontant jusqu'à votre première rencontre avec la philosophie, en questionnant vos influences philosophiques et extra-philosophiques, en pénétrant dans votre atelier de fabricante de concepts, en réfléchissant au rôle politique de la philosophe que vous êtes. Mais d'abord, s'il fallait identifier un concept clé autour duquel s'articule votre travail et les nombreux livres que vous avez publiés, Barbara Cassin, qui portent sur la notion de sophistique, pourtant souvent dévaluée par les philosophes, on y reviendra, mais aussi sur l'importance de la traduction, ce concept clé pourrait être celui de langue, non ?
Oui, je ne sais pas si c'est un concept. Est-ce qu'on arrive à en faire un concept ? En tout cas, c'est un mot. Mmh. Et c'est un mot
c'est
compliqué.
C'est quelque chose.
C'est quelque chose. Et c'est un mot compliqué, puisque ça commence avec ce qu'on a dans la bouche, jusqu'à... la manière dont nous parlons et ce avec quoi, grâce à quoi et à l'égard de quoi nous parlons.
Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec la philosophie ? Vous avez parlé en terminale quand vous avez vu que... Est-ce qu'il y avait un texte en particulier ou un professeur ?
Un professeur, elle s'appelait Madame Motigny, je me souviens de son nom, alors que je ne me souviens pas toujours du nom de mes professeurs. Je vois très bien son visage, je vois la manière dont elle était coiffée, avec un tout petit peu presque les tempes un peu dégarnies. Et elle était tout à fait charmante. Et je me souviens des premiers émerveillements que son enseignement m'a prodigué. Le premier, je crois, dont je me souviens en tout cas, c'est qu'elle avait posé une question, elle avait dit « Qui est Socrate ?» Et moi j'étais très contente parce que je faisais du grec, donc je savais qui était Socrate, donc je lève le doigt et je dis, et je commence, j'avais beaucoup de choses à dire, et je commence « Socrate était un Athénien ». Elle m'a dit « Ça suffit ». Et j'adore ces interruptions-là, c'est-à-dire celles qui, tout d'un coup, vous font comprendre ce que vous êtes en train de dire. C'est un peu comme des ponctuations analytiques.
C'est ce que j'allais dire, c'est une séance de psy, ça.
Socrate, c'est un... ça suffit. Il m'est arrivé un autre truc du même genre. Une fois, quand j'étais en hippocagne ou en cagne, on faisait des cols. Et je me souviens d'un colleur... qui d'ailleurs était ministre après, qui m'a donné à commenter du Claudel. Et moi, je l'ai lu. Il m'a dit, ça suffit. Et il m'a mis 19. J'ai adoré ça aussi.
Pendant la suite de vos études, donc après la terminale, vous êtes allé en classe préparatoire et vous avez rencontré quelqu'un, un philosophe et poète, que voici.
Au niveau historique, ou comme disent les traducteurs, historial. Comme l'aigle de Hölderlin qui marque le temps, « Merket die Zeit », les poètes apparaissent comme des oracles du temps qu'il fait. Les poètes sont figures spirituelles, figures de cet esprit partagé en langue nationale qui enthousiasme les hommes. Ils révèlent le temps du monde.
Alors on va entendre beaucoup de langues au cours de cette émission, de langues étrangères. Ici c'est pour ça qu'on garde aussi les propos en allemand de cette personne que vous avez peut-être reconnue, Barbara
Michel Deguy, bien sûr.
Qui est Michel Deguy ?
Michel Deguy, alors pour la petite histoire, était mon professeur... à Pasteur, professeur de philo à Pasteur, en Hippocagne, au lycée Pasteur. Une classe magnifique. C'était vraiment très bien parce qu'il n'y avait pas de cagne. Et je crois que c'était la seule Hippocagne. Donc on s'est retrouvés, c'est des amis que j'ai encore aujourd'hui. Et, à la classe en dessous, il y avait Alain Libera.
Et dans aujourd'hui professeur au Collège de France.
Professeur au Collège de France, oui. Et donc Michel Deguy était... poète, puisque je crois que cette année-là, il venait de gagner le grand prix, d'avoir le grand prix de poésie, peut-être de l'Académie française, je ne sais pas, un grand prix de poésie. Et donc il était poète et philosophe. Et c'était, à mon avis, dans cet ordre, bien qu'il se présentât comme professeur de philosophie. Et en même temps, il nous écrasait avec sa moto... en démarrant comme un fou au feu rouge quand on traversait. Bon, et c'était plutôt une immense leçon de liberté par rapport aux disciplines et par rapport aux textes et par rapport aux idées. Je me souviens de la première dissertation que j'ai rendue, ou l'une des premières. Il avait dû donner il y en avait une en tout cas, qui avait comme sujet la limite. Et alors, moi, c'était vraiment, je me suis donné un mal pour faire cette dissertation. Et il y avait comme commentaire, le côté dialectique est entrevu. Neuf. J'ai adoré ça. C'était extraordinaire. C'est-à-dire qu'on était obligé de comprendre quelque chose.
Mais quel lien faites-vous entre la philosophie et la poésie ? Qu'on pourrait facilement opposer.
Bon, pas quand on est heideggérien, en tout cas.
Vous êtes heideggérienne ?
J'ai lu Heidegger. Et non seulement je l'ai lu, mais je l'ai connu. Et je l'ai connu chez René Char. Donc, et aussi grâce à Michel Deguy, grâce à François Fédier, etc. Donc, c'était dans la suite de l'Hippocagne à Pasteur et de 68. Et je me suis retrouvée au séminaire du Thor, où j'étais la plus petite.
Qu'est-ce que c'est le séminaire du Thor ?
C'est un séminaire que faisait Heidegger chez Char. Et où il y avait Beaufray, Patrick Lévy, qui est celui qui nous a appris à traduire Hannah Arendt, ou qui nous a fait traduire Hannah Arendt. Il y a eu, je crois, à un moment donné, Deguy, mais en tout cas, il n'était pas là l'année où j'y étais.
C'est juste après mai 68, ça.
C'était en 69.
69.
Mmh. Et j'ai donc, flairé conjointement la philosophie et la poésie, et avec Deguy, et avec Char Heidegger. Et donc ça ne me viendrait pas à l'idée de les opposer. En revanche, leur relation est une question, est une vraie question. Et je ne crois pas, je me souviendrai toujours de la manière dont Heidegger et Char en parlaient. Heidegger disait à Char, alors il parlait allemand, mais c'était d'autant plus, il parlait allemand, c'était un allemand... à la fois très solennel et un allemand de tonnelier, enfin c'était solennel et bourgeois. Et donc, petit bourgeois peut-être, mais solennel en même temps. Donc il disait à Char, oui, nous sommes chacun posté sur une haute colline ou sur une haute montagne, et nous nous faisons des grands signes, vous poète, moi philosophe. Char disait, peut-être, on serait plutôt des prisonniers dans un cul de basse-fosse, deux geôles voisines avec un tout petit trou, et puis de temps en temps, il passe quelque chose comme un souffle. Bon, un chuchotement. Donc voilà, j'ai tout le temps compris les deux en même temps et travaillé les deux en même temps.
On pouvait écouter soit Heidegger, soit René Char, on a choisi René Char.
Il semble que la poésie, par les voies qu'elle a suivies, par les épreuves qui l'ont rendue concrète, constitue le relais qui permet à l'être blessé de recouvrer des forces neuves et de fraîches raisons. La poésie n'est que rarement glaneuse d'indulgence, instigatrice de petits méfaits de fantaisie. Son originalité ne s'égare pas dans une botte de paille. Le mot passe à travers l'individu, définit un état, illumine une séquence du monde matériel, propose aussi un autre état. Le poète ne force pas le réel, mais en libère une notion qui ne doit point laisser dans sa nudité autoritaire.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Bienvenue sur les chemins du vendredi pour un nouveau numéro de Profession Philosophe, aujourd'hui en compagnie de la philosophe Barbara Cassin. Vous venez d'entendre la voix de René Char. C'était en 1964 sur France Culture, dans une émission hommage à Heidegger pour ses 75 ans, figurez-vous. Mmh. Et l'extrait de Michel Deguy que nous avons entendu avant appartient même à la même archive. Cette importance de la poésie, de la réflexion sur la langue, montre aussi la dimension, disons, matérielle de la philosophie, vous qui travaillez sur la langue. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement des idées qu'on essaierait de coucher sur le papier. La langue elle-même a une influence directe sur la pensée, n'est-ce pas ?
Oui, c'est même le point de jonction entre la poésie et la philosophie. Et il y a une phrase de Char qui me revenait pendant que je l'entendais, c'est « Le poète ne dit pas la vérité, il la vit. Et en la vivant, il devient mensonger. Paradoxe des muses, justesse du poème. » Très intéressant ce rapport entre la vérité et le mensonge, ou la vérité, le vrai et le faux. Et très intéressant de voir que ça bouge entre poésie et philosophie. Et moi je crois que c'est exactement là que je me situe, dans ce bouger. Je ne serais pas pour les sections dures, vérité, mensonge, vérité, erreur. Et je pense que par exemple... Je comprends cela mieux maintenant que j'ai écrit le dernier livre que je viens d'écrire, qui s'appelle « Quand dire, c'est vraiment faire », et qui, au fond, a été inspiré par la dernière phrase d'Austin dans...
Le philosophe américain qui l'en doit un texte qui s'appelle « Quand dire, c'est faire ». Et vous avez écrit un livre qui s'appelle « Quand dire, c'est vraiment faire ».
Voilà. Et donc, ce philosophe termine son livre en disant « Comme je suis heureux d'avoir « play old Harry », de m'être fichu de la gueule de fétiches que je voulais vraiment faire bouger, c'est true false fetish, vérité vrai faux, et value fact fetish, valeur faite. Et c'est à partir de cette phrase que je me suis intéressée à ce qu'on faisait quand on parlait.
Est-ce qu'on peut comprendre cet intérêt pour le brouillage des frontières entre le vrai et le faux comme étant un des effets de votre intérêt premier pour la sophistique?
Oui, je ne sais pas si la sophistique est mon intérêt premier.
Votre premier travail universitaire, en tout cas, portait sur la sophistique?
Non, le premier portait sur Leibniz. Et Leibniz,
votre premier amour, c'est Leibniz.
Leibniz, c'est un philosophe que j'adore. Je trouve que le principe de raison, il faut qu'il y ait une raison pour qu'il y ait quelque chose plutôt que rien, ou pour qu'il en soit ainsi plutôt qu'autrement. Mmh. Je trouve que c'est un principe d'une force incroyable. Bon, et plus fort que le principe de non-contradiction, justement, d'Aristote. Donc oui, mon premier travail, c'était avec Ferdinand Alquier sur la correspondance entre Leibniz et Arnaud, le grand Arnaud, après le discours de métaphysique. Et c'est un travail que j'ai donné à Charles, justement. C'est-à-dire que je venais de le faire et je lui ai donné, parce que c'était la seule chose que j'avais faite, et c'était la seule chose qui était matérialisable, si vous voulez, et en même temps matérialisée. Et en même temps, je l'ai donné pour une raison précise qui était que... ça s'appelait conviction et démonstration dans la polémique philosophique entre Leibniz et Arnaud. Mm-hmm. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir qu'au moment où il disait la même phrase, la même, ce qui n'est pas véritablement un être, n'est pas non plus véritablement un être, mais il accentuait l'un sur être, l'autre sur un, alternativement, eh bien, c'est là où il ne pouvait plus se comprendre. Là, c'était fini. Il n'y avait plus rien qui passait et ça s'arrêtait.
Et vous aimez quand la pensée s'arrête?
J'aime quand la pensée s'arrête, j'aime quand la pensée s'arrête et que ça se voit dans le langage. Et je trouvais que ça, c'était une puissance du langage incroyable, une puissance et un échec, les deux. Et donc, voilà pourquoi je l'avais donné à Charles.
Quand en 1994, vous soutenez votre thèse d'État, l'effet sophistique, dirigée par Pierre Aubinck, vous prenez à revers toute l'histoire de la philosophie qui, depuis Platon, s'est inscrite contre la sophistique.
Oui.
Pour le dire rapidement, hein, Platon, qui est du côté de l'idée, du rationnel et surtout du vrai, accuse les sophistes de son temps de jouer avec la vérité, de renverser le vrai et le faux et de tenir des discours qui peuvent nuire à la réalité, car ils ne respectent pas l'idée en elle-même. Et toute l'histoire de la philosophie s'est construite contre ça, et vous vous dites, bah non, finalement, la sophistique elle-même ne s'oppose peut-être pas à la philosophie, et surtout elle a ses vertus.
La vertu première de la sophistique, et c'est là où Gorgias intervient, pour moi, c'est de voir comment s'est fabriqué un discours de philosophe. C'est d'être sur le bord. Et donc là, j'ai été confrontée à ça en travaillant le traité du non-être de Gorgias, qui est un petit traité qui est une réponse d'une violence extrême, à condition de ne pas le prendre pour un petit jeu de gamin, au poème de Parménide. Le poème de Parménide, c'est ce sur quoi Heidegger a finalement construit tous. Je ne peux pas dire son système, je ne peux pas dire son ontologie, je ne sais pas comment le dire, sa pensée peut-être. Et il a construit sa pensée en faisant l'aurore de la philosophie. Et en disant, en affirmant avec force que quand on lisait ces quelques vers, eh bien on pouvait brûler des bibliothèques entières. Et surtout, on n'avait plus besoin d'écrire des livres. Bon. Et ce qui m'a paru extraordinaire, c'est qu'une génération après Parménide, 50 ans plus tard, Gorgias est démonté la manière, oui, m'est donné les outils pour le faire et manifesté qu'on pouvait démonter le discours de l'être, le il y a de l'être, le il est de esti, le esti de Parménide est, et puis le il y a de l'être de Heidegger. Et on peut le démonter en montrant comment c'est fabriqué, en montrant que c'est un discours justement, c'est un discours qui marche, qui réussit, qui a mis beaucoup de choses de son côté. Et donc la grande philosophie, c'est un discours qui a marché. Et quand on lit Gorgias, on comprend pourquoi et comment. Ça, je trouve ça absolument inouï.
Quand on s'approche de votre univers, alors à la fois dans votre tête et dans votre corps, on trouve des choses qui sont toujours en lien avec la langue et toujours en lien avec la philosophie, mais qui s'expriment peut-être différemment. Et on trouve notamment ceci.
Je me lève et je te bouscule. tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux presque malgré moi comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos comme d'habitude.
Regrets, I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. More, much more than this, I did it my way.
Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je vais sourire.
Barbara Cassin, est-ce que c'est l'effet de traduction d'une chanson à l'autre qui vous intéresse, là, ou ce sont les chansons elles-mêmes ?
C'est les deux. J'adore cette chanson. Je la trouve, quand on l'écoute, elle est extrêmement belle, elle est extrêmement violente, elle dit beaucoup de ce que c'est qu'un couple et de ce que c'est qu'une vie. Et j'adore qu'il y ait une transposition absolue entre Comme d'habitude et My Way.
Parce que l'original est de Claude François en 67, oui. Et Frank Sinatra en 69 propose My Way, voilà. Qui est une traduction pas toujours littérale de la chanson.
Mais absolument pas littérale. Et il doit y avoir une trentaine de traductions dans toutes les langues, et aucune n'est littérale. Donc chacune, au fond, dit quelque chose de l'ordre du génie ou de la culture d'un pays et d'une langue. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Donc j'avais choisi cette chanson pour mettre dans un jukebox, cette chanson et toutes ses versions, pour mettre dans un jukebox dans l'exposition sur la traduction qui s'appelait « Après Babel, traduire » que j'ai faite au MUCEM.
Final. On ne peut même pas le laisser jusqu'au bout, ce serait trop long, mais quel final. Alors, ce qui est formidable quand on réfléchit à la traduction à travers l'écoute de ces deux chansons, c'est qu'on comprend que peut-être ce qui importe le plus dans la traduction n'est pas justement le sens littéral, qu'il y a autre chose à traduire qu'ici, peut-être la mélodie, le rythme et la voix traduisent.
Oui, et aussi le sens est traduit. On ne sait plus quel est l'original. C'est ce que disait Borges c'est à propos de la traduction. Il disait « Oh, l'original essaye de ressembler à la traduction ». Mais là, je trouve que c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que, comme d'habitude, et My Way, on ne sait plus quel est l'original et les deux sont pleins d'un certain type de génie.
Vous êtes l'auteur, la co-auteur d'un vocabulaire européen des philosophes, vous l'avez dirigé.
Des philosophies.
Des philosophies, pardon, avec plusieurs philosophes, qu'on appelle aussi le dictionnaire des intraduisibles. Souvent, et qui recense les termes en philosophie. Alors évidemment, on aurait envie, enfin j'aurais envie que ça s'adresse, enfin, que tous les termes de chaque langue puissent être recensés, pas simplement en philosophie, qui ne peuvent pas être traduits d'une langue à l'autre. Et c'est à la fois absolument angoissant de se dire que tel concept français n'est pas traduit dans une autre langue, et en même temps extrêmement enthousiasmant de se dire qu'en fait, peut-être que l'effort de traduction consiste aussi à essayer de dire un mot à travers le choix d'autres mots par le biais de la périphrase ou par le biais de d'autres manières d'expliquer un seul terme.
Oui, c'est compliqué dès qu'on en parle parce que, vous voyez, d'abord, moi, je mettrai pas le mot de concept parce que ces entrées, les entrées de ce dictionnaire sont des mots. Justement, des mots en langue.
Quelle différence ?
Eh bien, concept, on est déjà dans un certain type de philosophie et on imagine que c'est indépendant des langues. Il y a une idée de type platonicien ou une idée générale qui est... justement, c'est pour ça que je m'intéressais tellement à Leibniz au début. C'est la caractéristique universelle de Leibniz, c'est la tentative de tout réduire en concept, c'est-à-dire en idée qui serait universelle. Partagé par tous les hommes. Donc, on pourrait calculer. Leibniz dit, ben, on va calculer mousse, on va voir si on se trompe. On va voir. Parce que on va réduire toutes nos pensées en concepts identiques, identiques voulant dire singuliers, en atomes conceptuels, et on va les calculer. Et on va les mélanger. Mais on aura tous le même calcul, de même qu'on a les mathématiques de Dieu. Bon. Or, je crois que c'est pas comme ça. D'ailleurs, Leibniz a jamais réussi, et personne après lui, Frege non plus, à faire une caractéristique universelle qui se tienne. Et en revanche, on fait de la philo, on parle. Et mon idée, c'est que justement, on philosophe en langue, avec un S, et que ça n'est pas pareil de philosopher dans une langue et dans une autre. Ce qui ne veut pas dire. Alors, donc, mes entrées dans ce dictionnaire sont des mots. Des termes, des pluralités de termes, hein, éventuellement des sets of terms. Bon. Et puis, par ailleurs, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que, eh bien, intraduisible, ça vaut pour tout et pour rien. C'est-à-dire que moi, j'appelle intraduisible ce qui est plus intraduisible qu'autre chose, mais pas du tout ce qui l'est complètement. Un intraduisible, c'est non pas ce qu'on ne traduit pas, mais ce qu'on ne cesse pas de ne pas tout à fait traduire.
Par exemple ?
Eh bien, par exemple, bonjour, un truc aussi simple que ça. Vous dites good morning, ça va à peu près, good evening, ça va à peu près. Mais si vous dites kairé en grec ancien, vous ouvrez la journée ou vous ouvrez votre adresse à quelqu'un en disant réjouis-toi, jouis. Et si vous l'ouvrez en latin, vous lui dites valet, porte-toi bien. Et si vous l'ouvrez en arabe ou en hébreu, puisque là, c'est vraiment la même langue, vous dites « salam, shalom », que la paix soit avec toi. Donc vous voyez, même un mot aussi simple que « bonjour » n'est pas un concept, mais est, comment dire, déclinable en langue différente qui le colore différemment. Et voilà, c'est
alors
ça qui m'a intéressée.
Mais pourquoi avoir fait un vocabulaire européen des philosophies et pas simplement des langues?
Mais parce que
vous auriez pu parler de Claude François, de Frank Sinatra ou du bonjour, mais là quand même vous attachez à des termes qu'on retrouve surtout dans les philosophies.
Ceci dit, à des termes de philosophie, en effet, parce que les philosophes pensent qu'ils pensent universel. Et moi, ce qui m'intéresse...
De leur donner tort.
Oui, c'est de montrer que l'universel est bien plus compliqué que ce qu'ils croient. Et que, en fait, même quand on philosophe, même là, eh bien, on parle... Et on parle en langue avec un S.
Mais là, on retrouve l'importance de la sophistique,
absolument.
Non ? Absolument. Qui tient qu'un discours est toujours le discours tenu par quelqu'un à un moment donné, et jamais le vrai en soi.
Et dans une langue. Et alors, les sophistes, eux, ne disaient pas ça puisqu'ils étaient grecs, et que pour eux, il y avait que le logos. Le logos qui veut dire ratio et oratio, raison et discours. Et à part le logos, il y a des barbares. Bon, donc les sophistes, si vous voulez, ce dictionnaire, c'est la sophistique immergée dans la pluralité des langues. C'est comme ça que je le définis.
Donc pour vous, le terme de sophistique n'a pas du tout un sens qui serait aujourd'hui péjoratif.
Aujourd'hui, si, il est toujours
péjoratif. Voilà, mais pas pour vous.
Non, je pense qu'il faut reconsidérer, mais enfin, ça ne veut rien dire péjoratif, si vous voulez. Mais ce que je crois, c'est que la sophistique est un mouvement de pensée passionnant. Voilà. Et qu'il est passionnant parce qu'il est d'une acuité critique sur ce qu'on appelle d'habitude la philosophie, qui vous permet de déniaiser beaucoup de choses et de les compliquer beaucoup. Et en même temps, de les simplifier beaucoup à partir du moment où vous dites que, ben voilà, oui, le poème de Parménide, ben oui, c'est un vrai poème. C'est-à-dire qu'il s'y passe des choses dans la langue. Et Parménide fabrique, d'une certaine manière, l'être qu'il dit découvrir. Ou que Heidegger le voit découvrir, le voit aléthéiser, si j'ose dire, dévoiler. Eh bien non, Parménide le fabrique, c'est-à-dire qu'il passe de esti, le verbe, à toéon, l'étang, le sujet. Et tout son poème fait ça. Et c'est par étapes, et c'est compliqué. Et à la fin, on arrive à quelque chose qui est de l'ordre du substantif, avec, donc, c'est un participe avec un article devant, et ce participe substantivé fait le substantif que Heidegger nomme l'être. Mais l'être, il n'était pas là au début, il ne se dévoile pas, enfin, il s'invente au cours du poème. Il est secrété par le verbe.
Il n'est jamais donné.
Il n'est pas donné, il est travaillé, produit, et produit par la langue. Et ça, c'est extraordinaire. Et quand on lit Gorgias, on comprend que ça, il l'a vu.
Comment vous expliquez que l'histoire de la philosophie ait suivi Platon et pas Gorgias? Pourquoi avons-nous tant de mal à considérer cet autre aspect de la philosophie?
Platon, Aristote, Heidegger. Bon, il y a une voie royale de la philosophie, et c'est très bien comme ça. Et s'il n'y avait pas de voie royale, il n'y aurait pas de dehors et il n'y aurait pas de critique. Donc, moi, ce qui m'intéresse, en l'occurrence, c'est cette marginalité...
C'est ça, vous vous situez comme dans la marge.
Oui, au bord. Exactement comme aujourd'hui, d'une certaine manière, la psychanalyse est au bord du discours qu'on tient d'habitude.
Marge à la marge, je dis ça, mais vous venez de recevoir la médaille d'or du CNRS, vous avez été nommée à l'Académie française en l'espace d'une année.
C'est une année beaucoup. Particulièrement
riche pour vous. Oui. Donc, c'est pas marginal comme endroit où se tenir.
Mais moi, je dis pas que je me tiens à la marge, même si j'ai eu du mal à me tenir au centre, que c'est pas tout à fait je crois pas que c'est là qu'on me trouve. Mais, en revanche, je m'intéresse à cette marge qui montre comment le centre est fait. Mais on peut dire que le baroque fait ça aussi. À l'Académie française, justement, je prendrai le fauteuil de Philippe. J'ai été élue sur le fauteuil de Philippe Bossan. Philippe Bossan est un musicien spécialiste du baroque. Baroque et sophistique, ça va bien. C'est-à-dire qu'on montre comment le classique, comment ce qui fait la grande philosophie, comment ce qui fait la grande musique est fait, est fabriqué.
Encore un jeu de langue à vous proposer, Barbara Cassin. C'est un extrait que vous nous avez suggéré.
كنا في لا كو ديال المحطه وما جيتي فيغ لو ديبي هو كان في لا فان وبدا يسول الناس عافاك خليني ندوز عافاك خليني ندوز والناس يقولوا واخا واخا وجاء موتو
ولا كان محطه زعما
لا ماشي زعما معطل زعما توريست وطلع لي الدم كيفاش انت زعما توريست وانا غنخليك مرحبا لا قلت لي صافي غتسنى ديغيغ مو صافي تسنى ديغيغ مو وي ليش ما مشكل ولكن هو زوين وكل شيء ضحكني غنشوف
que sommes-nous en train d'écouter Barbara Cassin?
Vous êtes en train d'écouter un petit film qui s'appelle Marseille en VO, qui a été fait par des jeunes cinéastes d'Aubagne pour l'exposition justement après Babel traduire sur
au Mucem, oui c'est
au
ça.
Au Mucem, oui. L'alternance codique, ce qu'on appelle en linguistique l'alternance codique, c'est-à-dire la manière dont on passe d'une langue à l'autre dans une même phrase, non seulement dans une même conversation, mais dans une même phrase. Et je trouve que c'est absolument passionnant d'essayer de comprendre à quel moment, paf, il y a une petite... alors, touriste, bon, d'accord, mais...
Cheveux noirs,
ma copine, ouais. Il était beau, on a galéré, on entend aussi. Et je trouve ça absolument extraordinaire que d'avoir plusieurs langues à sa disposition, de pouvoir passer d'une langue à l'autre, et qu'on puisse, nous, en les écoutant, se demander comment ça se fait, là, où, à quel moment.
Vous parlez combien de langues, Barbara Cassin?
Oh, j'en parle pas tellement, j'en comprends plus que je n'en parle.
Ouais. Et vous pensez, on pense différemment dans chaque langue?
Oui, je pense que... Là, je pense que, bon, très banalement, je pense que chaque langue est quelque chose comme une vision du monde. C'est un... Souvent, je le définis ça comme les... comme Humboldt, par exemple, qui disait, voilà, c'est un filet, une langue est un filet qu'on jette sur le monde, et selon l'endroit où on le jette, selon la manière dont on le jette, la maille du filet, etc., on ramène d'autres poissons, on ramène un autre monde, ça laisse passer quelque chose d'autre. Donc ça, je crois que ça s'appelle culture aussi, hein, c'est vrai. C'est tout. Mmh. Maintenant, là où ça devient grave, c'est quand, justement, on parlait de Heidegger au début de cette émission, c'est quand on en fait quelque chose de l'ordre du génie national, du génie enraciné dans une terre. Et ça, c'est ce que fait Heidegger à propos de l'allemand et à propos du grec, mais à propos de l'allemand encore plus grec que le grec. Il dit que c'est enraciné dans une race et dans un sol, et que c'est ça le génie d'une langue. Donc, mais Heidegger n'est pas le seul à avoir dit les choses comme ça. On peut dire que Rivarol, par rapport au français, n'était pas loin d'être parfaitement heideggerien. C'était pas la même tonalité, on va dire. Mais bon, et ça n'a pas produit le même type d'effet. Mais c'est un mal très partagé d'imaginer que sa langue est la langue. Et c'est un mal très partagé depuis les Grecs, puisque c'est ça que logos veut dire. Oui.
Si on suit les sophistes jusqu'au bout, est-ce qu'on pourrait pas aller jusqu'à dire qu'en réalité, même au sein d'une même langue, il y a toujours un effort de traduction? Que dire ce que nous pensons est déjà une traduction, que communiquer en est une autre, et qu'en réalité, c'est comme si nous parlions chacun une langue différente?
Oui, d'ailleurs, c'est le même mot en grec, hein. Tout ça, c'est herméneia. Tout ça, c'est de l'herméneutique. Et Aristote, quand il commence dans le déinterprétationné, dans le péri-herméneias, justement, dans le sur l'interprétation, à dire comment ça se passe entre le monde ou les objets, ce qu'il y a dans l'âme et ce qu'il y a dans les mots, eh bien, il appelle ça herméneutique, traduction. C'est le mot pour dire traduire après. Donc oui, bien sûr, tout ça est un transport, une traduction.
Mais c'est un miracle que nous nous comprenions.
Mais oui, enfin pas plus que le fait que nous existions ou que nous vivions. Enfin, ça fait partie de ce que c'est que vivre et exister.
Bah vivre, on l'a pas choisi. Parler, communiquer, on fait ce qu'on peut et parfois on y arrive. Et c'est ça qui, quand on part du principe que chaque mot a peut-être un sens différent selon chaque personne, une intonation différente selon la façon qu'il est prononcé, qu'on arrive à produire du sens et un discours.
Oui,
quelque c'est... chose de remarquable.
De remarquable, absolument. Et c'est là-dessus que le traité du non-être de Gorgias insiste. C'est extraordinaire quand même que on arrive à se comprendre. D'ailleurs, on ne se comprend pas. Bon, mais quand même, on se comprend.
On va pénétrer dans votre atelier, Barbara Cassin, voir comment vous travaillez. Vous avez beaucoup écrit, je l'ai dit, et souvent aussi dirigé des ouvrages collectifs. Et on va voir comment vous vous y prenez. Notre guide pour y aller, ce sera le philosophe Bachelard qui parle d'un philosophe que vous avez cité, que vous aimez beaucoup.
Lémnis travaille deux jours. Il vit dans une chambre sombre, quand l'esprit perd sa fraîcheur, son mordant. Lémnis a coutume de prendre un court sommeil dans son fauteuil. Mais, nous dit-il, ce sommeil est si profond que l'esprit en sort tout neuf, à nouveau aiguisé.
Barbara Cassin, avez-vous aussi, comme Leibniz, avez-vous un rituel d'écriture, une chambre sombre et une sieste pendant la journée?
Non, si j'ai un rituel, j'ai pas de rituel. Je crois pas.
Non.
Enfin, c'est ceux qui vivent avec moi qui pourraient le dire. Mais j'aime bien, en revanche, être à la lumière et au soleil. Et moi, j'écris quand c'est clair, plutôt que quand c'est sombre.
Pas la nuit, donc.
Non, sauf quand je suis vraiment obligée ou quand je suis vraiment très malade. Mais j'aime écrire dans le soleil.
Et donc à la main, parce qu'on ne peut pas écrire à l'ordinateur au soleil.
On se tourne ou on le voit à côté et on retourne au soleil très vite. Bon, c'est un problème l'ordinateur, c'est vrai. Mais j'écris sous un parasol aussi.
Est-ce que vous arrivez à identifier le moment où vous avez une idée que vous décidez de décrire, de coucher sur le papier ou sur l'ordinateur? Comment ça se passe?
Je pense qu'il y a plusieurs manières très différentes. Si vous voulez, je pense que de même que il faut plusieurs névroses pour faire une psychose, de même, il faut plusieurs causes occasionnelles déclencher je ne sais pas si c'est un concept, une idée ou en tout cas le désir d'écrire. On peut dire que d'une certaine manière il est toujours possible, ce désir, mais qu'il se fait réalité avec plusieurs causes conjuguées. En général, il y a une obligation de métier, hein, de travail. Il faut que je fasse une conférence, il faut que je fasse un cours, il faut que je termine un livre. Alors, quand est-ce que je l'ai commencé? Ben, je ne sais pas, toujours déjà. Hein. Mais ce que je peux dire, c'est que ce que j'aime faire, depuis je m'en rends compte, c'est écrire quelque chose et que ça me surprenne. Et donc, quand ça commence à me surprendre, j'ai envie de continuer. Il faut que même quelque chose que je suis obligée de faire plan-plan, c'est-à-dire parce que c'est une conférence très universitaire, un peu protocolaire, etc., je le fais plan-plan, et puis ça m'échappe à un moment donné, et il y a quelque chose de plus qui se passe, ou d'autre, qui n'est pas tout à fait ce que j'attendais, et je peux... ça me permet enfin de respirer.
Et qui est quoi? C'est quoi cette chose de plus?
C'est quelque chose que j'attends pas, en idée même.
Une idée que vous découvrez au moment où vous l'écrivez?
Au moment où je la relis. Où je la lis, au moment où je viens de l'écrire. C'est un après-coup instantané. Donc je me dis, ah, là, ouais, et je continue, et la phrase d'après est une invention, ou est pour moi quelque chose d'inventif. Et donc c'est ce quelque chose d'inventif qui me pousse à écrire. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à écrire des livres qui sont des livres qui ramassent des choses que j'ai déjà faites d'une certaine manière, bien que on y soit quasiment contraint de temps en temps. Mais pour que je puisse m'y mettre, il y a des livres qui sont dans mon ordinateur depuis 10 ans ou 15 ans, pour que je puisse m'y mettre et les faire pour de bon, il faut qu'il y ait quelque chose de neuf qui m'y pousse. Par exemple, le dernier livre, Quand dire c'est vraiment faire, il y a des bouts qui ont été pensés, écrits il y a très longtemps. Mais je n'avais pas le motif, c'est-à-dire pas non plus la motivation, pour les inscrire comme un tout.
Alors quelle a été cette motivation ?
Le désir de comprendre la différence entre performance et performatif. C'est aussi pointu que ça. Le performatif austinien et ce que j'appelle performance, c'est-à-dire discursivité sophistique, c'est-à-dire type de rhétorique, dont il y a un mot grec pour ça, épideixis, bon, qui veut dire aussi éloge. Donc tout ça, et tout d'un coup j'ai compris que là, il fallait vraiment que je le noue et que je le dénoue.
Et là, vous le faites pour qui? Pour vous? Pour transmettre cette idée pour,
Je ne sais pas.
Parce que vous pourriez vous contenter du plaisir d'avoir fait cette distinction
non.
dans votre tête. Vous choisissez de l'écrire.
Ben oui, parce que si elle n'est pas écrite, je ne l'ai pas faite.
Ah oui.
Non. Et je ne l'ai pas comprise. Et en plus, justement, je ne l'ai pas inventée. C'est-à-dire qu'il faut que je la suive. Il faut qu'elle me force à la suivre pour que ça existe. Donc, tant que ça n'est pas écrit et tant que ça ne m'a pas étonnée, ça n'existe pas.
Et c'est un plaisir d'écrire ?
Ah oui, c'est un plaisir. Ça ne veut pas dire que ça ne puisse pas être en même temps une souffrance, surtout quand on trouve que quand ça ne marche pas, quand les articulations ne sont pas là, quand elles sont trop là, quand on a l'impression de se répéter trop, ça c'est très difficile. Je dirais moi que ce qui me fait le plus peur, c'est d'être obligé de me... C'est que ce que j'écris est si bâti ensemble, si consistante depuis le début, et plus ça va, plus je vois la consistance. Le début de mon dernier livre, Quand dire c'est vraiment faire, je raconte comment c'est un immeuble, justement, à la Leibniz, et comment chaque partie est là, et comment, bon, bien sûr, j'ai vendu par appartement, j'ai pris quelques bouts, et puis j'en ai fait des tout. Mais c'est un immeuble. Et donc, ce qui est très grave et très difficile, c'est que, pour en raconter un petit bout de nouveau, on a besoin de tout ce qui précède. Donc on a besoin de se répéter. Mais alors, il ne faut pas se répéter pareil, parce que ça, c'est très emmerdant même pour soi. Et non seulement pour les autres, mais pour soi. Donc il faut trouver le bout par lequel, oui, c'est cet aspect-là du bâti qui concerne le nouveau bâtiment.
Et alors, je vous disais en début d'émission que peut-être le terme clé autour duquel s'articule votre travail était celui de langue, mais pour vous c'est peut-être un problème. Quel est le fil conducteur ou le ciment qui tient entre elles ces différentes parties de la maison? Qu'est-ce qui vous a occupé? Qu'est-ce qui vous préoccupe en fait dans votre travail depuis
le terme le plus juste, ça serait celui de discours plutôt que celui de langue. Hein, discours, discursivité. L'un des points de départ, c'est vraiment le logos grec qui veut dire trop de choses à la fois. Et enfin, j'avais sur une des quatrièmes de couverture de Aristote et le Logos, j'ai défilé tout ce que Logos voulait dire dans tous les dictionnaires. C'est terrifiant. Bon, et cette polysémie-là, qui est confine, quand on la regarde depuis une autre langue, à l'homonymie, c'est très intéressant. Bon, pourquoi est-ce que discours voudrait dire la même chose que raison ? Alors là, je me demande bien. Hein. En tout cas, en français, je vois pas. Bon, donc, quand on regarde depuis une autre langue, vous voyez que la traduction est tout de suite présente. Tout est présent à partir de ce terme quand on le sculpte, et quand on le suit et quand on s'en offusque, je dirais.
Est-ce que vous considérez votre travail comme une forme d'engagement politique, en tout cas public ?
Public, c'est sûr, parce que écrire, c'est public, parler, c'est public. Politique, si on prend ça au sens grec, c'est-à-dire au sens de rapport à un commun, certainement. Si on prend ça au sens non pas du politique, mais de la politique, peut-être pas. Il faut vraiment que je sois très en colère pour faire de la politique.
C'est arrivé à quelle occasion ?
Mais par exemple, je trouve que l'attitude de l'Europe et notre attitude à tous en général, embringuée par la France et par l'Europe, à l'égard des migrants, est simplement un pur scandale, dont j'aurais honte à l'égard de mes enfants et de mes petits-enfants, dont nous devrions tous avoir honte, dont nous aurons tous honte. Donc, c'est un scandale. Donc, je me suis dit à un certain moment, eh bien, je ne parlerai plus de manière publique sans parler de ça aussi, ce que je fais.
Vous venez de le faire.
Oui.
Mais est-ce que vous pensez que, je vais formuler la question différemment, que la philosophe que vous êtes a une responsabilité politique ?
Responsabilité politique, je ne sais pas si on peut être responsable sans être efficace, vous voyez ? C'est ça mon problème.
Est-ce que vous pensez que vous ne serez pas assez efficace ?
Oui. Je pense que pour avoir une efficacité politique, il faut s'engager politiquement. J'ai aucune envie de m'engager dans aucun des partis que je vois.
On peut s'engager politiquement sans être dans un parti.
Oui.
Agir, vous avez fondé une association, n'est-ce pas, en Afrique du Sud ?
Ah, j'ai fondé une association en Afrique du Sud et j'ai fondé une association ici, en France, qui s'appelle Maison de la Sagesse Traduire, qui représente un engagement qu'on peut dire politique, mais au sens du politique et pas de la politique, encore une fois. C'est-à-dire que, effectivement, je travaille avec un certain nombre d'amis autour de ce qu'on peut faire pour les migrants, de ce qu'on peut essayer de faire avec eux, pas pour eux, mais avec et, comment dire, en tant que nous sommes nous et qu'ils sont eux et qu'on les accueille et qu'on ne les accueille pas et que, bon, voilà, travaillons autour de ça. Et donc, pour l'instant, on est en train d'essayer de fabriquer des glossaires de la bureaucratie.
Mais ça, c'est intéressant parce que c'est ce que c'est pas les limites d'une réflexion sur le discours, le cas des migrants
si,
que vous
citez. Bien sûr.
En fait, c'est pas des questions de langue qui vont changer quoi que ce soit.
Non, ce sont des questions de traduction qui changent quelque chose. Notre association s'appelle Maison de la Sagesse Traduire. Donc réfléchissons. Qu'est-ce qu'on fait quand on demande à un Malien sa date de naissance? On propose, comme allant de soi, notre manière de décrire le monde, qui n'est pas la sienne. Et en travaillant par exemple à Aubervilliers avec les gens qui s'occupent de l'état civil, ils sont tombés d'accord pour dire « Ah, on comprend pourquoi ils sont tous nés le 31 décembre ou le 1er janvier ». Parce que, date de naissance, ça se dit pas comme ça. On dit « né vert » et puis ensuite on la dit pas. Et puis ensuite, on ne la sait pas. Puis quand on la sait,
parce
on
que
la
tout le monde donnait la même date, c'est ça ?
Ben oui. 31 décembre ou 1er janvier. Bon. Et quand on demande nom-prénom, on est en train de travailler là-dessus. Nom-prénom, ça ne va pas du tout de soi. Ça va de soi pour nous. Bon. Mais ça ne va pas du tout de soi. Quel nom va choisir une femme syrienne ? Celui de son père ? Celui de son mari ? Lequel a-t-elle ? Elle a un nom d'homme. Bon. Mais le sien ? Alors, elle veut être à la sécu ou elle veut pouvoir être facilement répudiée ou elle veut... Enfin, bon, qu'est-ce qu'elle veut ? Bon, vous voyez, tout ça, c'est dans nos questionnaires, mais c'est entre les mots. Et c'est dans la traduction. C'est dans la différence des langues et des cultures. Ça, c'est absolument passionnant. Et c'est pour ça que c'est absolument lié. Bon, c'est une partie de ce qu'on fait, de ce qu'on essaye de mettre en place dans cette association. Une autre partie... est un travail sur les objets et les récits d'objets qui circulent, qui migrent et qui peuvent témoigner de la présence de quelqu'un dans un lieu. On travaille par exemple, on a commencé à travailler avec des organismes de microcrédit pour tenter de fabriquer des banques culturelles qui, en échange d'un microcrédit, montreraient des objets avec leur récit, qui témoigneraient d'un parcours et d'une insertion, insertion avec tous les guillemets que vous voudrez. Mmh. Bon, vous voyez, donc, et ça se fait avec des langues, ça se fait en mots, et tout ça est absolument passionnant. Et le troisième volet, qui est un volet alors là plus directement scientifique, de chercheur, c'est de réfléchir sur ce qui bloque terriblement, à savoir les religions, les trois monothéismes. Et je fais un dictionnaire des intraduisibles des trois monothéismes. Enfin, je lance.
Qui sera bien utile. On va se quitter avec des mots et des paroles, cette fois-ci, celle de Marlène Dietrich. Lily Marlène, c'était aussi votre suggestion. Vous pouvez nous en dire deux mots?
Ah, c'était parce que cette chanson, elle peut passer d'une chanson nazie à une chanson pour les Américains qui arrivent pour combattre. Et cette chanson, avec très peu de mots de changement, mais en passant d'une langue à l'autre, a aussi changé de bord. Donc ça, c'est très intéressant.
Bei der Kaserne vor dem großen Tor steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
Merci beaucoup Barbara Gasson d'être venue nous parler ce matin.
Merci à vous.
De votre travail, de votre rapport, de votre pratique et de la philosophie, on mettra en ligne vos derniers ouvrages, ceux dont on a parlé, le vocabulaire européen des philosophies évidemment, et le dernier ouvrage, Qu'en dire, c'est vraiment faire, Homère, Gorgias et le peuple arc-en-ciel aux éditions Fayard. Merci, à bientôt.
Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit ihr, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen.
Sur France Culture, les chemins de la philosophie, après Marlène Dietrich, c'est Anastasia Colosimo qui prend le micro pour son journal de la philo.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Anastasia.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du premier essai du jeune et prodigieux romancier Clément Bénèche. Cet essai, qui paraît la semaine prochaine aux éditions Plein Jour et qui s'intitule « Une essentielle fragilité, le roman à l'ère de l'image », s'interroge sur la place de la photographie dans les œuvres littéraires. Nous l'avons joint au téléphone pour nous en parler. Bonjour Clément Bénèche.
Bonjour Anastasia.
Alors vous dites au début de votre essai que vous étiez radicalement contre toute présence de photographie dans un roman. Qu'est-ce qui vous a fait évoluer vers une position plus raisonnable ?
Eh ben, c'est une suite de choses, à commencer par la découverte de Breton il y a quelques années, notamment Nadja, les vases communicants, l'amour fou et toutes ses propres réflexions sur la place de la photographie dans le roman qui venait finalement contrer notamment la description.
Vous dites que l'image finit par réveiller la véritable identité de la littérature, qu'elle la renvoie à sa mortalité, à sa fragilité essentielle, c'est le titre de votre essai. C'est quoi cette fragilité essentielle de la littérature ?
En fait, finalement, c'est une idée qui vient de Paul Valéry, qu'il a utilisé en 1936 dans un discours sur le centenaire de la photographie, lorsqu'il dit que finalement, l'avènement de la photographie va renvoyer les autres arts, et notamment la littérature, à ce qu'ils ont de propre, à ce que eux seuls sont capables de faire. Et notamment, pour la littérature, toute la question de l'intériorité, et puis de, finalement, on revient à une réflexion qui était celle de Lessing au XVIIIe siècle, quand il a fait cette distinction entre l'image et le texte, qui est que la poésie, dans sa réflexion, est plus à même de parler des choses successives, des choses qui se déroulent dans le temps, et l'image est celle qui doit nous rendre ce qui est spatial, ce qui se présente comme tel.
Donc il y a une forme d'immédiateté à l'image, vous dites c'est un mode de connaissance du monde à part entière.
Oui, et ça c'est très important de faire cette distinction entre les différents modes de connaissance, et notamment le roman, le romanesque, qui est ce qui est désigné par mon titre « Une essentielle fragilité », parce que de fait, j'utilise cette métaphore en fait de l'automate lorsqu'il arrive dans l'usine. Tous les hommes qui sont là regardent l'automate avec méfiance et se demandent ce qui leur reste à eux d'humain. Et finalement, la photographie qui s'invite dans le roman a une position un peu similaire, parce que c'est comme une machine qui arrive et qui défie ce qui reste au texte. Et donc moi, finalement, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant la façon dont l'existence de la photo met au défi le roman, mais finalement, c'est sa démocratisation et sa facilité de diffusion et de captation aujourd'hui qui, pour moi, pose un défi au roman. Parce que quand on a grandi comme moi avec le SMS et avec le MMS, on a pour naturel de s'exprimer avec des mots et des images. Et ce qui est intéressant, c'est ce que cette démocratisation fait au roman. Et elle nous invite évidemment à penser ce que le roman a encore de propre à nous dire, et notamment le langage.
Finalement, ce que vous dites, c'est que donc c'est une chance pour le roman de pouvoir être accompagné de photographies, et vous plaidez, vous, dans votre essai, pour un roman bicaméral. C'est quoi un roman bicaméral ?
C'est ça. Alors en fait, l'essai est en trois moments rhétoriques. Le premier consistant à en fait extraire la littérature et le roman du champ du jeu, J.E.U., puisque finalement, quand on parle comme ça de moyens, de techniques dans un roman, on se heurte assez vite à des réflexes éthiques, à des préoccupations quasiment de tricherie. On se demandait pourquoi faire ça. Donc une fois qu'on a extrait la littérature du champ du jeu, le deuxième moment rhétorique est une sorte de réflexion sur la pureté dans un monde qui est quand même guidé par le transmédia et les mariages entre les arts, réfléchir à la question de la pureté, de savoir pourquoi ça a préoccupé tant d'artistes. Et finalement, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que l'image et le texte sont des modes de connaissance du monde à part entière. Et c'est ce qui nous amène à penser à un roman bicaméral, c'est-à-dire un roman qui a deux chambres, la chambre noire de l'appareil photo et la chambre de l'écrivain. C'est pour ça que j'ai donné ce nom de bicaméral à un roman qui contiendrait du texte et des photographies.
Merci beaucoup Clément Bénège pour ce plaidoyer pour le roman bicaméral. Je rappelle que votre essai sort la semaine prochaine. Il s'intitule « Une essentielle fragilité, le roman à l'ère de l'image » et il paraît aux éditions Plein Jour.
Merci beaucoup Anastasia. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Un grand merci à Mathieu Tarpin qui a préparé cette émission avec Colomba Grossi, Isis Jourda, Anaïs Isbert, Géraldine Bosna-Savoie que vous retrouverez dès lundi pour une reprise de ses chroniques. Le Journal de la Philo sera désormais à nouveau présenté par Géraldine Bosna-Savoie et on se réjouit beaucoup de la retrouver, ainsi que vous, chers auditeurs, je n'en doute pas. Thomas Beau qui réalise cette semaine, Alexandre Dan qui est à la prise de son aujourd'hui. On se retrouve lundi pour une nouvelle série sur le voisinage. Sommes-nous condamnés à vivre ensemble ? Voisins, mode d'emploi chez Georges Perec, philosophie des frontières avec Étienne Balibar, mais aussi Fenêtre sur cour par Alfred Hitchcock. Ça, c'est le programme de la semaine prochaine qui commence dès lundi, 10h précise. D'ici là, vous pouvez réécouter les émissions sur le site des Chemins de la Philosophie, les télécharger, les podcaster pour les écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et avant lundi, vous pouvez aussi nous retrouver ce samedi 12 janvier dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne pour la journée spéciale organisée par France Culture autour du changement climatique. Je vous retrouve à 11h30 en compagnie de Cynthia Fleury, Dominique Bourg et Pierre-Henri Castel. Le débat sera évidemment diffusé la semaine suivante, le vendredi, en lieu et place des Chemins de la Philosophie. À samedi donc, puis à lundi, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.